Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du festival d'Yggdrasil en compagnie de Kevin.
Hello.
Et de moi-même. Pour commencer, il va nous expliquer qu'est-ce que ce festival.
Alors, le festival Yggdrasil, c'est un événement qui se passe chaque année à Eurexpo. Donc on en a deux dans l'année, l'autre se passe régulièrement au Parc de Paris, mais celui-là c'était celui de Eurexpo et dont le salon qui est découpé en plusieurs mondes. Donc plusieurs mondes qui dépendent chacun de différents univers. Donc là les steampunk, comme son nom l'indique, c'est tout le côté steampunk. Le pays fantastique regroupe l'ensemble des productions qui sont du style Le Seigneur des Anneaux, les mondes des séries saga arthuriennes, The Witcher et autres. Le monde des sorciers, on aura compris, c'est le monde d'Harry Potter à la clé. La ruelle d'Edo, qui est consacrée surtout et majoritairement aux œuvres asiatiques, notamment tout ce qui est les Miyazaki et les mangas. L'espace infini pour nos chers amis et fans de Star Wars. Et enfin, on retrouve la grande bibliothèque qui est consacrée à tout ce qui est œuvres écrites, donc avec des auteurs et des auteurs de fanfiction ou des jeunes auteurs qui manquent parfois de reconnaissance alors que c'est des petites perles. On retrouvera aussi évidemment le Demain c'est mieux, qui est la partie science-fiction et futurisme, où on retrouve plein de partenaires qui parlent de voyages dans l'espace, qui parlent du monde de demain.
En effet, ce festival est coupé en différentes parties et chaque partie représente du coup, comme il vient de l'expliquer, une allée spécifique avec le monde fantastique, les sorciers, donc tout ce qui est Star Wars, Harry Potter. Et pour les grands fans de films, de séries comme Doctor Who ou autres, c'est vraiment un festival très attrayant et on a quand même un côté très chaleureux et beaucoup de spectacles parce qu'il y a beaucoup de groupes connus qui se produisent, des groupes métalleux notamment, enfin du moins cette année, mais aussi par exemple des événements comme les pin-up.
Oui, en effet, on a quand même la possibilité d'avoir un ensemble d'attractions et d'événements vraiment sympathiques. On parlait des fans de Doctor Who, on a quand même eu la Pepperpot Steam, qui est un gros morceau dans la fanbase Doctor Who. On avait les pin-up, on avait aussi des groupes de métal relativement connus, les éternels concours de cosplay. Et le gros avantage d'Yggdrasil sur beaucoup d'autres conventions, c'est qu'on est vraiment sur des créateurs, un salon de créateurs, de fans ou d'artisans et on n'a pas forcément tout cet aspect goodies qu'on peut avoir dans les autres salons et c'est vraiment très agréable.
C'est surtout une grande culture remplie de multiples événements. En fait, c'est différent, par exemple, comme la Japan Expo, Japan Touch ou les TGS. C'est un monde très culturel qui tourne autour de beaucoup de films, beaucoup de séries et c'est vraiment ouvert à tous, quel que soit l'âge. C'est vraiment très très varié et ça attire pas mal de monde. Après, on a beaucoup d'espaces restauration qui sont plutôt attrayants sur les thèmes. Notamment, il y avait un peu comme le chaudron baveur dans Harry Potter. C'est quelque chose qui est peut-être simple, mais ça donne envie d'aller voir et d'y goûter.
Le festival Yggdrasil, en gros, si on résume bien, c'est vraiment un monde, on pourrait dire, de geek ou de weeb, de fans de tout ce qui est fantastique, de l'heroic fantasy, de science-fiction et de la culture qu'on appelle culture geek, assez banalement, mais qui est vraiment ouvert à tous. Et on retrouve des personnes de tout âge, de tout sexe, de tout genre. Et c'est vraiment très tolérant, où on accepte de tout. Et c'est ce que j'adore là-bas.
Et en plus, on peut venir cosplayer. On peut venir déguiser de la façon dont on veut, de n'importe quelle animé, n'importe quel film et autre. Mais surtout, il y a un côté technologique que j'ai pu remarquer. Moi, j'appelle ça l'Ariana Corporation, avec les nombreux vaisseaux et autres, et nouveaux projets qui vont sortir avec pas mal de conférences très intéressantes, avec la venue de aussi de nouveaux youtubeurs, qui ne sont pas très connus, mais pourtant ont leur place, autant que les autres. Il y a notamment aussi pas mal de stands pas du tout connus au niveau dessin, qui font des graphismes incroyables, ou même des petites figurines, des compositions assez étonnantes et même un peu étranges, on n'a pas l'habitude de voir. Il y a beaucoup de travail de la matière, notamment du cuir, notamment travail de la plume. C'est un style décalé et hors du commun, mais ça attire beaucoup et pas mal de gens viennent découvrir cela et en font partager. Et pour certains, c'était leur première exposition. Et au final, ils vont évoluer parce que les gens comprennent que y a de tout là-bas et que c'est pour tout le monde. C'est juste du plaisir. C'est même pas je vais exposer comme ça, montrer. C'est juste par plaisir. C'est mon métier. Je viens de le commencer pour certains. Et c'est juste du plaisir, en fait.
Et maintenant, le moment disclaimer. En effet, on a eu quelques problèmes au niveau de la qualité du son, comme vous allez pouvoir le remarquer, puisqu'on rappelle que ce festival se tient à Eurexpo, qui est un énorme espace, c'est peu de dire, avec pas mal de bruit ambiant, et que du coup, forcément, étant donné qu'on est hors studio, il peut arriver que sur certains passages, on ait de la saturation ambiante ou saturation de parole, du fait qu'il fallait essayer de gérer le son, et c'est pas toujours simple. Donc j'espère que vous nous en tiendrez par rigueur et que vous prendrez quand même plaisir à écouter cette émission. De plus, autre point important à évoquer selon nous, le temps d'attente avant la publication de cette émission qui est particulièrement long, puisqu'il était prévu à la base un mois après le festival Yggdrasil, et les un mois ont largement été dépassés. Et bon, cela s'explique pour diverses raisons. Déjà, à cause d'un certain nombre de grèves que nous avons connues à cause de la réforme des retraites qui ont bloqué notre studio, puis ensuite des vacances estivales, et j'en passe, et des meilleures. Donc voilà. Mais nous avons quand même estimé qu'il était pertinent de diffuser cette émission, puisqu'elle est particulièrement intéressante. Elle montre la qualité du festival et la qualité humaine des exposants, qui, je l'espère, vous convaincra comme elle nous a convaincus. Et de plus, on a estimé que ce serait aussi très pertinent de le diffuser en espérant que cela vous donne envie, comme nous, d'aller ou de retourner à la prochaine édition du Festival Yggdrasil en février 2024.
Bonjour, bonjour, je vous laisserai vous présenter.
Alors, je m'appelle Laetitia, je suis la gérante de l'Atelier des Lueurs. Donc, je fabrique des bougies artisanales. Ma spécialité, c'est la bougie sculptée. Donc, elles sont d'apparence fantastique, elfique, médiévale. Et elles renferment plein de petites surprises.
Oui, parce qu'on est sur un type de bougie de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire Russie, Ukraine et compagnie, c'est ça ?
Exactement, en fait, la bougie sculptée, ça vient d'Ukraine. Moi, tout mon matériel et ma formation, ça s'est fait au niveau de l'Ukraine, en fait.
Et donc, du coup, vous êtes installée dans le coin ou pas tout à fait ?
Alors, je suis de Haute-Loire, à Tens, entre Yssingeaux et le Chambon-sur-Lignon.
Ok, et donc vous fabriquez tout vous-même, tout ce qui est présent sur le stand, les différentes bougies de toutes les couleurs, de toutes les formes ?
Absolument, tout ce qui a une mèche est passé entre mes mains en fait. C'est un vrai travail artisanal avec une vraie sélection de produits, de matières naturelles pour que ce soit sain au maximum et pas polluer les intérieurs.
Ok, super. Au niveau de tout ce travail de couleurs, tout ce travail de forme, vous pouvez un peu nous détailler la procédure de comment vous réalisez tout ça ?
Alors la bougie sculptée, en fait, je superpose environ 40 couches de couleurs différentes. Donc en fonction de ce que je choisis, le résultat est différent puisque ça dépend des 40 couches qui sont apposées au préalable. Donc il est impossible d'avoir deux fois la même bougie. Et donc tout se marie, j'ai plusieurs univers. J'ai fait une série sur les dragons avec des couleurs chaudes rappelant la lave, etc. Par exemple, je suis aussi très inspirée par les minéraux. J'aime beaucoup ajouter des pierres dans mes bougies pour un côté un peu magique. Voilà, faut que ça fasse rêver et ça sent bon également parce que j'utilise les parfums de grâce. Donc voilà.
Ok, super, merci. Et pareil, du coup, je vois quelques bijoux aussi sur votre stand. Est-ce que c'est en rapport du coup avec ce que vous faites ?
Tout à fait. En fait, certaines bougies sont des bougies surprises, donc un bijou est caché à l'intérieur. Donc, il faut être un petit peu patient et profiter du parfum de la bougie. Et on découvre une surprise, un petit trésor qui est renfermé par cet écrin de cire.
Peut-être un dernier mot avant de nous quitter ?
Eh bien, merci et félicitations aux organisateurs du festival. C'est vraiment un endroit exceptionnel. On se régale et on fait de belles rencontres.
Super, merci beaucoup.
Bon ben bonjour. Pourquoi ou comment ?
Pourquoi ou comment ? Eh bien écoutez, ici à Yggdrasil Lyon, James Iron, société Wow Effect. Je suis prothésiste plasticien en effets spéciaux au départ. Je suis également performeur international. Et là, je vous présente la collection de ce que nous avons mis en place pour justement cette expo et qui est cette année sous le, on va dire, sur le thème du crâne et de la rose.
Ok, c'est super intéressant. Mais d'où vous vient cette idée en fait ?
Alors moi, au départ, je suis maquilleur en effets spéciaux pour le cinéma. Et puis, j'ai bifurqué dans l'événementiel il y a 25 ans. Et aujourd'hui, je parcours le monde avec des costumes comme celui que vous pouvez voir là, qui s'appelle Exopunk. Et j'ai 182 costumes différents et je parcours le monde avec mes costumes et mes concepts. Et à côté, je développe toute une gamme de produits qui sont destinés à la décoration pour le cinéma, le théâtre et maintenant les particuliers.
D'accord, donc vous êtes connu dans le monde et tout le monde achète ça. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ça.
Ah oui, bien sûr. Ouais, je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir partager ça avec le particulier, puisque pendant des années, je l'ai fait pour le cinéma et aujourd'hui, je me rends le plus possible disponible, y compris pour le particulier.
Et je crois reconnaître du coup des références magnifiques à The Mask ou à Avatar, voire même là-bas, on a une une impression de Mad Max ou des médecins de l'horreur. Je sais pas si Dune aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors ça représente mon passé de maquilleur pour le cinéma, où j'ai eu la chance de travailler sur des blockbusters comme Alien 4, Predator, Terminator, Cinquième élément et Les Rivières pourpres. Enfin voilà, beaucoup de films. Et où j'ai été maquilleur, plasticien. Et aujourd'hui, bah voilà, après ce début de carrière à Los Angeles dans les studios américains de cinéma, j'ai décidé de mettre, on va dire, plus d'écran entre le monsieur, madame, tout le monde et le cinéma, de crever l'écran et d'arriver devant les gens et de leur montrer ça en vrai, en live.
Franchement, c'est magnifique, surprenant, mais franchement, ouais, très intéressant.
Eh ben, je crois qu'on peut le dire ensemble, hein, Wow Effect.
Ouais, c'est merveilleux. Une dernière chose à dire?
Eh bien, je souhaite à tous les visiteurs de bien profiter de ce salon, de s'émerveiller comme quand on était petit, et puis de rester petit au fond de son cœur, parce que c'est là où on est le mieux.
Merci beaucoup.
Bonjour Thomas, et est-ce que tu pourrais nous parler de ton stand, s'il te plaît?
Alors, bonjour, moi je suis Tom, donc de la Forge Drapeau Noir. Donc je suis forgeron, coutelier, bijoux, outils, et donc... Je forge tout à la main, de manière traditionnelle.
Ouais, il m'a semblé voir en effet du coup un style plutôt Europe médiévale, presque viking antique, un peu ce qu'on s'attendrait à voir dans des jeux comme Skyrim ou Assassin's Creed. Donc est-ce que c'est une inspiration ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est cet aspect anto-antique qui ressort?
Alors les deux, c'est à la fois une inspiration. J'aime bien le côté un peu âge du fer, un peu ancien style qu'ils avaient à l'époque. Et aussi parce que je me rapproche technique traditionnelle, donc forcément il y a une affinité avec cet esprit-là, ce style-là. C'est pas pour coller à ce qui se fait actuellement, c'est vraiment parce que c'est une technique et esthétique que j'apprécie.
Tu travailles exclusivement le fer ou l'acier ou différents types d'acier autres?
Alors ça dépend des produits, c'est de l'acier spécial pour les couteaux. Ou un peu de récup quand c'est la qualité qui va bien quoi. Et pour ce qui est bijoux, c'est de l'acier particulier sans nickel pour voilà, mais c'est toujours de l'acier en tout cas.
Ok, d'accord. Et quelle technique tu peux pratiquer au niveau de ton forgeage, que ça soit damasquiné ou autre? Est-ce que tu utilises ce genre de méthode ou pas du tout?
Oui, j'utilise technique un peu orientale et japonaise, donc ça s'éloigne un peu de technique nordique, mais c'est des techniques très intéressantes pour la forge. Très traditionnel aussi, avec un grand passé et une grande technique. Donc oui, ça m'arrive de faire damas, sanmai aussi, et travailler l'acier plus moderne, mais toujours d'une façon assez brute, c'est traditionnel quand même.
Tu es installé sur Lyon, ou est-ce que tu as un endroit où on peut te trouver sur Lyon, ou pas du tout?
Alors sur Lyon, non, pas de boutique. Moi, ma forge est dans l'Isère, à côté de Morestel, donc c'est pas loin de la Savoie, à 1 heure de Lyon. Donc c'est atelier, boutique en même temps, et vous me trouvez sur internet aussi.
C'est parfait. Bah du coup, je vous invite tous à venir voir son travail, il est vraiment splendide. Vous retrouverez son lien dans la description. Et salut à toi, comment vas-tu?
Ça va, et toi?
Très bien, très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oui, donc moi c'est Kevin, je suis youtubeur, tiktoker, instagrammeur, enfin vidéaste sur l'astronomie, donc la vulgarisation en une minute.
Et donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le nom de ta chaîne et nous en dire un peu plus?
Ouais, donc ma chaîne c'est G de la culture geek. Donc voilà, comme je disais, mes contenus, on va dire... c'est de l'astronomie, principalement, donc 95% c'est de l'astronomie, même si je parle un petit peu de l'univers geek, mais un peu plus de loin, mais je vais aussi casser des idées reçues, par exemple, est-ce que le sable mouvant est dangereux, voilà, donc mais c'est plus les planètes.
De ce que j'en vois, tu as l'air d'être un peu un fan de la NASA, ou des autres agences spatiales, ou de tout ce qui tourne autour de l'espace, est-ce que tu peux expliciter un peu tes passions et autres?
Alors oui, moi je suis un fan de l'espace depuis 5-6 ans, donc c'est assez récent. Moi avant c'était vraiment l'univers geek et même l'histoire, mais d'un coup voilà, je me suis intéressé à l'astronomie et c'est une passion dévorante que j'ai depuis. Et forcément, sur mon stand, on y retrouve des Legos de la NASA, forcément tout ce qui est fusée, j'ai aussi des planètes, voilà, c'est vraiment mon truc depuis quelques années.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de quel coin de la France tu viens?
Moi je viens entre Clermont-Ferrand et Vichy, donc voilà, l'Auvergne, même si j'ai vécu 11 ans en Alsace, mais voilà, je suis auvergnat et depuis toujours.
Donc du coup tu viens du coin si j'ai bien saisi?
Lyon, je suis à 2 heures d'ici, voilà, on m'a invité sur le Festival Yggdrasil, donc je suis content de découvrir, parce que c'est la première fois que je viens ici et je pense que je reviendrai.
Est-ce que tu as été content de l'accueil qui a été fait au niveau du festival, des événements qu'on a pu te faire et autres?
Mais carrément, c'est les bénévoles, tout le monde est vraiment génial. Le festival est vraiment dingue.
Bah super, merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour cette interview?
Bah, merci tout le monde surtout. Voilà, un grand merci à toute l'équipe et franchement, c'est super.
Et maintenant, on se retrouve après Louine, Samuel et Emon avec notre maître préféré, maître Thibaut.
Et bonjour à tous. Merci.
Comment vas-tu ?
Ah bah écoute, ça va. Un peu fatigué quand même. C'est vrai que j'enchaîne beaucoup entre les quiz, les gens qui viennent me voir. Mais c'est un réel plaisir d'être ici.
Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais depuis samedi matin du coup ?
Eh bien, écoute, là, je suis sur mon stand. Je présente un livre qui s'appelle le livre Pop-Up. C'est un livre qui s'ouvre et qui dévoile tout l'univers de Game of Thrones, un peu comme c'était le générique. Et j'aime beaucoup emmener ce livre parce que c'est vrai que c'est un peu atypique. Ça attire l'attention et ça permet un petit peu de discuter de la série. Et puis, des fois, j'ai des abonnés qui viennent, on échange et c'est un réel plaisir.
Super. Et donc, du coup, oui, toi, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ton activité sur YouTube et sur les autres plateformes, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ?
Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je suis Maître Thibaut sur YouTube et je parle essentiellement de Game of Thrones, The Witcher, Le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment une chaîne spécialisée dans la fantasy. Et dessus, je parle de théories, de livres, je présente les épisodes, des personnages, des artefacts. En gros, si tu veux vraiment un petit peu faire le cake et flâner en soirée, ma chaîne, c'est idéal parce que du coup, je te donne des petites clés, des petites infos pour comprendre mieux la série et certaines choses. Et tu comprends beaucoup mieux la série et comment elle fonctionne, pourquoi les personnages ont telle ou telle réaction. Et t'es beaucoup plus calé, et ça n'a pas de prix, clairement.
Super, merci. Et qu'est-ce que tu viens faire à Yggdrasil ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer si tu as été invité ? Est-ce que tu es venu de ton plein gré ? Enfin, plus de détails là-dessus.
Ouais, bien sûr. Alors en fait, sur Yggdrasil, moi j'aime bien tout ce qui est festival. C'est pas le premier que je fais, j'en ai déjà fait une bonne dizaine de conventions, mais Yggdrasil, c'est la première fois. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de cette convention parce qu'elle est assez atypique. C'est une convention qui est très thématique, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Parce que du coup, tu as vraiment des gens qui aiment tout ce que tu proposes et ils viennent vraiment pour voir des artistes et des personnes différentes, des artisans et un artisanat. Et je trouve que c'est très cool. Et au niveau de l'animation, c'est très bien. J'anime plusieurs quiz sur scène où je fais gagner des petits shots de boissons derrière. Donc les gens sont très contents, même si moi, je suis un peu explosé à force d'animer les scènes. Mais sinon, en termes d'invitation, en fait, c'est juste ça s'est fait de naturellement. J'ai parlé avec les gens et j'ai le président du festival qui est venu me voir et qui m'a invité, qui m'a proposé tout simplement de venir pour proposer de ce que je fais, discuter avec des personnes et animer 2-3 scènes.
Tu nous as dit de venir parce que tu viens de loin. Est-ce que tu es loin de Lyon du coup ?
Alors non du tout, je suis à Thonon-les-Bains, donc je suis à 2 heures d'ici à peu près. Donc c'est pour ça que je vais proposer en termes de défraiement, tout ça, c'était assez facile. Et puis la logistique, je viens tout seul en voiture, donc voilà, c'est pratique.
Tu nous disais que ton univers, c'est majoritairement le Seigneur des Anneaux, enfin l'univers de Tolkien, de Martin et du troisième, celui de The Witcher, dont je n'oserais pas prononcer le nom de l'auteur de peur de l'écorcher.
Andrzej Sapkowski.
Ouais, non, mais j'ai un mal fou moi aussi, c'est compliqué, hein, donc voilà. Mais donc du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, lequel de ces trois univers brille le plus dans son actualité récente, même si je pense connaître déjà la réponse ?
Bah, si tu connais la réponse, du coup, je pense que c'est plutôt Game of Thrones qui brille complètement par l'actualité, même si Le Seigneur des Anneaux a quand même eu son quart d'heure de gloire. Il y a eu les films de Peter Jackson, il y a la série s'est fait pas mal bâcher ces temps-ci, malheureusement, elle était même pas sortie que déjà les gens la détestaient. House of the Dragon a vécu aussi un peu pareil, donc c'est vrai qu'on est dans une ère un petit peu particulière où maintenant les haters ont malheureusement beaucoup plus de place que ceux qui aiment, donc les lovers. Et bah du coup, je dirais House of the Dragon quand même et Game of Thrones, parce qu'en termes d'intensité et de puissance, HBO pour l'instant est au-dessus d'Amazon et des autres productions. À voir si peut-être le constat s'inverse dans le futur ou pas du tout. Mais pour l'instant, je trouve que HBO maîtrise quand même bien mieux son sujet parce que peut-être les livres sont beaucoup plus consistants et l'auteur est toujours là pour accompagner s'il y a besoin.
Oui, parce que du coup, on a pu voir justement que House of the Dragon a par son scénario beaucoup plus conquis le public que les Anneaux de Pouvoir ou même que celui qu'on a totalement oublié, Blood Origin.
Ah non, Blood Origin, je ne veux même plus en parler. Pour moi, c'est une erreur, cette série, vraiment. Non, c'est clair qu'il y a vraiment eu le duel House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est marrant. Le Seigneur des Anneaux a commencé son premier épisode le 3 septembre, la date de décès de Tolkien. Et House of the Dragon a commencé avant et a terminé après Le Seigneur des Anneaux. Donc, ils ont vraiment essayé d'aller dans la compétition. Et c'est là où on a vu vraiment qu'il y avait une surenchère, il y avait un jeu au niveau sur les réseaux sociaux vraiment qui était entre guillemets celui qui frappait le plus fort. Et c'est bien parce que d'un côté la compétition et la concurrence ça booste un petit peu et ça permet de remonter le niveau.
Même si apparemment ça n'aura pas suffi pour Le Seigneur des Anneaux au scénario qui malheureusement a pas mal de déficiences d'après les critiques.
Oui, je confirme, c'est vrai que certains épisodes étaient assez légers, la base scénaristique manquait un petit peu de consistance. Même si moi je suis un petit peu un fan sympathique quand même et j'essaie de tirer du positif derrière, même si la série, effectivement, tout n'est pas à jeter. Il y a quand même des bons points, mais il y a clairement des points d'amélioration pour le futur. Alors, bon, c'est bien aussi, comme ça au moins la série, entre guillemets, elle part de plus bas et elle ne pourra que monter ou nous surprendre.
Et bon, je pense qu'on va arrêter de parler de nos séries, puisque c'est peut-être pas forcément le but dans cette interview. Parce que je vous renverrai aux épisodes du Voyage des Cinéphiles qui sortiront bientôt sur ces thèmes-là. Et pour la suite, qu'est-ce que vous envisagez au niveau des conventions, Maître Thibault ?
Alors, au niveau des conventions, j'ai pas vraiment de suite. J'ai peut-être éventuellement Tours, qui serait au niveau de juillet. Après, j'ai Made in Asia, donc la MIA, à Bruxelles. Donc ça, pour l'instant, c'est en pourparler, c'est pas encore officiel. En général, je t'avoue, je sais même pas ce que je fais le mois suivant. Souvent, ça arrive un petit peu au dernier moment, donc là, c'est un peu tôt. Mais j'ai envie de refaire des conventions. C'est vrai qu'avec le Covid qui s'est un petit peu estompé, j'ai envie de reprendre comme avant et de proposer plus en plus de rencontres. C'est plus sympathique quand même.
Eh ben super, merci. Peut-être un mot de la fin ou quelque chose à dire avant qu'on finisse cette interview ?
Ben, n'hésitez pas à vous évader dans les univers de fantasy. Même si des fois la vie n'est pas toute rose, eh ben, l'univers de fantasy est là pour vous accompagner et il faut essayer justement d'en s'en servir pour tirer le positif.
Parce que justement, dans ces univers de fantasy, tout est rose, tout est beau. Il y a des monstres qui nous décapitent et d'autres qui essaient de nous bouffer.
Exactement, mais c'est ça qui est beau.
Bonjour, bonjour. Comment vous appelez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Gilles. Et je suis artisan relieur. Avec mon épouse, nous réalisons des grimoires en cuir, tout fait à la main. C'est-à-dire, on plie, on troue et on coud les feuilles, on les colle, on travaille le cuir. On assemble tout ça pour faire de jolis grimoires.
Ok, super. Donc, c'est-à-dire que tout c'est entièrement fait de votre main. Vous avez le matériel pour travailler le cuir, vous avez la presse pour assembler le livre, vous avez tout ce qu'il faut.
Tout à fait, on a tout ce qu'il faut à la maison pour être heureux et pour faire des heureux aussi. Oui, oui, sans problème.
Et pareil, tout ce qui est le travail des plumes et même des flacons à encre et tout ça, c'est aussi de votre facture ?
Oui, tout à fait. Alors, pour les plumes, on a un fournisseur. Alors, français, je tiens à le préciser, parce que c'est devenu très rare de trouver des fournisseurs français. Il a 16 hectares, il se trouve dans le Berry. Alors, naturel ou teinté. Et nous, on les assemble, en fonction des couleurs, en fonction des espèces, on mélange, on fait des belles plumes et on colle tout ça. Pareil pour les encriers, on les reçoit nus et on les habille de cuir et de belles décorations.
C'est sublime. Pareil pour les petites boîtes, du coup, je suppose aussi que c'est vous qui les habillez.
Exactement, les boîtes, on les reçoit nues et on les habille aussi, tout à fait, oui, oui.
Et vous êtes installé où, du coup ? Vous êtes sur Lyon même ou ailleurs ? Vous venez pour le festival, en l'occurrence ?
Alors du coup, oui, on a traversé la France pour venir vous voir, car nous venons de la côte ouest. Donc on a fait 700 km pour venir voir Lyon aujourd'hui, enfin ce week-end, à ce magnifique festival Yggdrasil, oui, tout à fait.
Donc on vous retrouve que sur Yggdrasil, on risque pas de vous revoir sur d'autres festivals de Lyon, la Japan Touch, Japan Expo aussi ?
Si, si, justement, on vient également à la Japan Touch. C'est deux rendez-vous incontournables à Lyon qu'on ne peut pas louper.
Bah c'est magnifique en tout cas, c'est la première fois que je vois un tel travail du cuir et un tel travail aussi de reliure, parce que c'est rare d'avoir des grimoires aussi bien exécutés et aussi bien réalisés, franchement. Chapeau.
Alors c'est vrai que faire un livre, c'est très long. Quand on prend la Bible du relieur, il y a à peu près 65 étapes pour faire un livre. Nous, de notre côté, on ne cherche pas la perfection non plus. Donc, il y a quelques étapes que l'on passe à côté. Mais il nous faut bien à peu près 45 étapes pour faire un grimoire. Un grimoire, en fonction de la difficulté, va nous demander en moyenne 25 heures de travail sur 4 à 5 jours, parce qu'il y a des temps de presse et de séchage qu'il faut respecter. Ça peut aller pour certains grimoires. On en a un, c'est le tout premier grimoire que l'on fait avec une tête de dragon que l'on a sculpté et dont les yeux s'illuminent puisqu'on a mis des LED en dessous. Donc là, il y a eu un gros, gros travail. Celui-là nous a demandé 60 heures.
Bah pour le coup, on a l'habitude de voir des grimoires, mais relativement faits à la va-vite. Là, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir un grimoire vraiment bien exécuté et comme on se l'imagine dans les différents univers qu'on peut voir de fantasy et autres.
Oui, alors pour les univers, c'est vrai que nous, on aime bien tout ce qui est heroic fantasy, fantastique, magie, etc. Donc on s'inspire de tout ça. On s'inspire également de films, de séries, de mangas. Voilà, parce qu'il en faut pour tous les goûts. C'est très important.
Et oui, on voit en tout cas que votre stand tourne autour de tout ce qui est écriture, justement, les grimoires, les plumes, les marque-pages, la cire à cacheter avec ses sceaux. On a des plumes de verre aussi qu'on ne retrouve pas forcément partout. Enfin, il y a vraiment tout l'univers du livre qui est représenté, l'univers de l'écriture et de la calligraphie. C'est vraiment très agréable.
Oui, effectivement, les grimoires, c'est bien. Il faut pouvoir écrire et dessiner dessus. Donc on reste dans le monde de l'écriture, de la calligraphie, du dessin également. Et le stand en fait a évolué au fur et à mesure des années. Petite anecdote, on fait des plumes en verre maintenant parce que une dame un jour nous a demandé si on en avait parce qu'elle était allergique à la plume naturelle. Donc fort de constater que moi je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler. On est allé voir notre fournisseur, il en avait, on en a commandé. J'ai essayé et c'est vrai que c'est assez magique.
C'était un vrai plaisir de vous interviewer. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter ou...
Eh bien écoutez, venez nous voir donc au salon Yggdrasil. Si vous n'avez pas le temps, ben, nous serons là donc, à la Japan Touch. Et puis surtout, le plus important, faites-vous plaisir.
Bon bah bonjour, expliquez-nous votre stand.
Bonjour, alors mon stand, cabinet curiosité à la base. Basé sur des choses naturelles et artificielles, d'où le nom Naturalia Artificialia. Beaucoup de conservation humide, ce qu'on appelle conservation humide, c'est-à-dire animaux ou organes conservés dans de l'alcool, d'où leur nom conservation humide. Des momifications aussi que je fais, donc des organes séchés, des moulages faits à partir d'organes réels, et puis après il y a une partie plus fantastique où je fais des sculptures, voilà. Toujours un petit peu bizarre, basé sur des crânes humains, mais en résine, évidemment. Parce que, bon, les crânes humains, on n'a pas bien le droit.
C'est bien dommage, mais depuis quand vous faites ça?
Ça doit faire 7-8 ans maintenant, je ne sais même plus exactement, de façon professionnelle. Avant, je faisais ça pour m'amuser, quoi, en gros.
Et on vous retrouve partout ou c'est que pour ce genre d'événement comme Yggdrasil?
C'est beaucoup de salons de tatouage, surtout. Et puis quelques salons geek ou fantasy comme Yggdrasil, parce que Yggdrasil, j'ai un attachement particulier à ce salon. Sinon, c'est surtout vraiment des salons de tatouage.
Et donc du coup, là-bas, les animaux qui sont conservés dans des bocaux, c'est des vrais, du coup, on est d'accord? Enfin, c'est des animaux qui sont conservés sous formol ou autre, c'est ça?
Alors, ce sont de vrais animaux, en effet, que je récupère en poissonnerie ou en boucherie. Donc, ils ne sont pas tués spécialement pour ça. Okay. Ils sont tués, bien sûr, parce qu'à la base, c'est destiné à la consommation. Mais moi, au lieu de les manger, bah, je les naturalise. Tout est légal, il n'y a aucune espèce protégée, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ils ne sont pas conservés dans du formol, parce que le formol est un produit très dangereux, qui est cancérigène très vite, corrosif et tout, donc c'est de l'alcool. Donc il n'y a aucun danger, sauf si on boit la bouteille, bien sûr.
Est-ce que ce serait pour garder la beauté de l'animal et pour pas qu'il y ait de genre de décomposition, en fait?
Voilà, alors c'est surtout pour qu'il dure dans le temps, comme ça. Moi, je suis un fan de poulpes, j'adore, donc je préférais les voir vivants, bien sûr. Mais là, comme ils sont morts, je les récupère et j'essaye donc de leur donner une forme particulière dans un beau récipient. C'est très important aussi que le contenant soit aussi beau que le contenu. C'est pour ça que je cherche toujours soit des véritables bocaux anciens, mais ça devient de plus en plus dur à trouver, soit des modernes, mais qui ont un look ancien.
Très bien, c'est merveilleux, vous faites un travail remarquable. Enfin, moi, je trouve ça assez... Ça prend aux tripes, en fait, c'est... On ne peut pas savoir si c'est dégoûtant ou autre, c'est intriguant, atypique, très, très, très étrange en fait, mais ouais, en fait, il y a une sorte, vous gardez en fait les animaux en vie, et dans une forme plutôt jolie au final.
Eh ben, c'est un très bon compliment, car c'est ce que j'essaie de faire justement, donc le fait qu'ils aient l'air encore vivants, et pendant des années, là, tant que ça trempe dans l'alcool, que c'est conservé dans de bonnes conditions, ça peut durer des années et des années, comme dans les anciens musées de médecine ou de sciences naturelles. Voilà.
Super, merci beaucoup. Vous avez une dernière chose à ajouter?
Je suis très content d'être ici.
Super, merci. Alors du coup, nous on est l'atelier Nymphae, on est un duo d'artistes Alice et Sarah, et on travaille ensemble sur un projet de bande dessinée qui s'appelle Monocle et Brins de Violette. Et sur notre stand, vous pouvez trouver tous les prints qu'on a créés qui sont issus de cet univers. Et c'est principalement de la fantasy qu'on qualifie de féministe parce que vis-à-vis des messages qu'on transmet. Et c'est surtout de la romance lesbienne. Voilà.
Très bien. Quel type de message vous tentez d'essayer de faire passer?
Alors notre sujet principal, celui qui nous tient le plus à cœur, c'est vraiment parler des relations entre les femmes, que ce soit les relations amicales, les relations amoureuses ou même les relations qui peuvent être plus difficiles, peut-être même plus toxiques. En fait, on a vraiment envie de parler de toute la complexité qui existe en fait entre les femmes et qui n'existe pas dans la plupart des histoires dont on ne parle jamais en fait.
Très bien, pourriez-vous nous donner un avant-goût, un petit scénario d'une de vos BD ?
Alors, ça se passe dans une école de magie. On suit le quotidien de deux héroïnes. La première, c'est Rose, qui est une nouvelle étudiante qui arrive en plein milieu de l'année. On comprend pas trop pourquoi. Et elle va devoir un peu apprendre à s'adapter à ce nouvel environnement parce qu'elle a jamais été scolarisée. C'est un peu une personne un peu particulière qui a besoin d'un environnement très, très particulier. Donc voilà, elle apprend un peu ce monde scolaire à l'appréhender tout ça. Et Shiori, c'est une élève qui est là depuis déjà deux ans à peu près. Et elle est très connue dans l'école parce qu'elle est hyper douée, mais elle n'est pas très appréciée. Il y a un peu des rumeurs qui circulent sur elle, tout ça. Et elle souffre d'anxiété sociale, donc c'est très compliqué pour elle. Et toutes les deux, en fait, elles vont fuir de temps en temps pour se reposer dans la forêt à côté de l'école. Et des circonstances particulières, elles vont être choisies pour devenir les gardiennes d'un portail magique reliant le monde des humains à celui des esprits. Et pour apprendre à se connaître, elles vont correspondre par lettres. Et en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles n'arrivent jamais vraiment à se rencontrer.
C'est super, ça a l'air hyper, hyper intéressant, hyper intriguant. Ça a l'air d'être une belle histoire. Est-ce que vous êtes ici juste pour l'événement ou est-ce qu'on vous retrouve dans d'autres événements comme la Japan Touch, etc.
Alors là, on vient vraiment tout juste de commencer le monde des conventions et tout. On fait surtout la Wycon qui a lieu en décembre. Donc celle-là on l'a beaucoup aimée, donc on va la refaire l'année prochaine je pense. On aimerait aussi tenter la Paris City Pop à Paris qui, bon après c'est sur la sélection et c'est très 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 sélectif, donc peut-être qu'on n'y sera pas, on ne sait pas encore. Il y a le Lézard Festival cet été en plein milieu de la Cambrousse je crois, qui est un festival lesbien et tout, où il y a plein d'artistes féministes et tout, qui a l'air vraiment génial. Voilà, on sera là cette année en tout cas sur cela.
Super, merci. Mais c'est vous qui faites vraiment tout? Vraiment ? Mais c'est génial ! Eh bien écoutez, avez-vous d'autres questions ? Non ? Nico ? Quelque chose à ajouter ?
Rien de spécial, merci beaucoup pour
l'interview. Bah non, merci de nous avoir interviewés. Hein.
C'est avec un grand plaisir, merci beaucoup.
Merci.
C'est magnifique en tout cas.
Alors moi je suis Annie et je fais principalement du recyclage. J'adore la rouille, j'adore les engrenages, j'adore les vieilleries. Et donc ben voilà, c'est mon univers, il y a plein de choses qui... Je trouve un objet, ça me parle, et tout de suite c'est parti dans ma tête, je sais ce que je vais en faire. Et puis après, il n'y a plus qu'à monter.
Et d'où vous vient cette inspiration ?
Bonne question, aucune idée. Ça a toujours été, et puis ça voyage très vite dans ma tête.
Mais vous parlez de vieillerie, mais pour le coup, moi ce que je vois, c'est tout un univers avec là où certes on reconnaît des ampoules, on reconnaît des engrenages, on reconnaît des boîtes rouillées, etc. Mais c'est vraiment... il faut vraiment regarder attentivement pour voir ce que c'est, parce que c'est vraiment tout un univers, c'est des oiseaux, c'est des mouches, c'est vraiment tout et n'importe quoi et c'est magnifique.
C'est pas un assemblage mis n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment une idée de départ que je vais concrétiser en récupérant à droite à gauche ce qui me convient de mettre.
On a vraiment tout un univers, il y a beaucoup de références je trouve et c'est très remarquable, mais pourquoi des ampoules ?
Alors ça, je sais pas. Les petites ampoules, j'ai commencé à faire des petits insectes comme ça. Ça a beaucoup marché et j'ai continué à en faire parce que j'en ai fait des dizaines, mais il n'y en a pas un identique. Alors quand je trouve des ampoules, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que je fasse des insectes. Sinon, les autres, c'est selon l'inspiration. Hein. Ça, c'est mon monde.
C'est tout un monde, petit monde en fait. Mais vous êtes connu un peu partout ou est-ce que vous faites que les grands événements comme Yggdrasil ?
Pas du tout, c'est la première fois que je viens ici et c'est un hasard. C'est un hasard, j'ai postulé à plein de festivals et c'était complet partout. Et puis au final, je pense que quelqu'un a dû se désister, on m'a appelé en dernière minute. Donc c'est vraiment un hasard.
Un heureux hasard.
Moi je rêve. Hein. Je serai. Ça c'est mon monde de toute l'année, ça ne dérangerait pas. Hein. C'est trop bien, c'est trop trop bien.
C'est merveilleux.
Merci beaucoup.
Et maintenant on se retrouve avec la Paper Pots Team.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc du coup, vous êtes nos fans préférés de Doctor Who. Donc, vas-y. Qu'est-ce que vous faites ici à Yggdrasil ?
Eh bien, on a été invités parce que l'organisateur du festival est un grand fan de Doctor Who. La preuve, il a organisé une exposition de Doctor Who et il aime beaucoup notre travail. Et donc, c'est très touchant parce que c'est la deuxième année de suite qu'il nous invite. Et on passe un super moment. C'est une super ambiance. C'est une des meilleures conventions qu'on ait fait. C'est décoré de partout avec plein de gens géniaux. On passe vraiment un super moment.
Est-ce que tu es du même avis?
Bah oui.
c'était bref, c'était succinct, mais c'était parfait. Et on est évidemment d'énormes fans de Doctor Who, énormes fans de votre chaîne Twitch, YouTube. On suit depuis très longtemps. Alors racontez-nous, quel est votre personnage de Doctor Who préféré?
Le 12e Docteur.
Ah, c'est difficile. Le Docteur, c'est un seul personnage.
La réponse facile.
Alors, pas obligé de taper dans le Docteur, ça peut être un autre personnage.
Ah, on peut choisir un personnage.
Ah, le maître alors.
Le Cyberman de l'épisode 3 à 5 minutes.
C'est vrai qu'il était pas mal celui-là, j'avoue. Et toi, dis donc ?
Je les aime tous.
C'est pas faux. Alors que moi, je dirais plutôt Missy, River, les femmes fatales, ça me... Là, qu'est-ce que vous nous présentez de spécial cette année ?
Bah, cette année, en fait, cette semaine, on a sorti un recueil de nouvelles, donc des fanfics, en fait, de Doctor Who. Il y en a 13. Et donc, on a ramené pas mal d'exemplaires de ce recueil et les gens sont super contents. Ça leur plaît beaucoup. Il y a plein de gens qui l'avaient précommandé parce qu'on avait fait un crowdfunding et qui sont venus avec leur exemplaire à signer. Ça nous a fait super plaisir. Et bon, voilà, c'est la grosse nouveauté de cette année. Après, on a rapporté un peu tout ce qu'on fait parce qu'on fait souvent des crowdfunding pour faire des magazines, pour faire des livres pour enfants. Donc, on a tout ramené. Et sinon, on a fait plusieurs quiz sur le week-end. Des quiz de pop culture de manière générale basés sur les thèmes du festival Yggdrasil, en fait, donc un peu pop culture de manière générale, mais répartis sur 8 thèmes différents. Donc voilà, on a essayé de ne pas parler que de Doctor Who dedans parce qu'on n'aime pas que ça quand même.
Pareil.
Efficace, voilà, simple, rapide, efficace.
Pour ou contre la romance avec Jack Harkness?
Entre qui et qui?
Avec Jack Harkness et le Docteur, évidemment.
Bon, il n'y a pas de romance. C'est pas le genre du Docteur, non. Et puis Jack, il drague tout le monde, donc non.
C'est pas faux.
Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, j'aime pas trop quand il y a des histoires d'amour avec le Docteur. J'ai plutôt bien aimé celle entre le 13e Docteur et Yaz, parce que c'était très simple et très réaliste, du coup. Et que ça m'a plu. C'est le genre d'histoire d'amour que j'aime bien. Moi, j'avoue que les gros mélos autour du Docteur, bon, ça, j'avoue que Rose, River et tout ça, c'est un poil too much pour moi. C'est pas comme ça que j'imagine le personnage du Docteur. Donc c'est vrai que j'imagine pas trop l'histoire d'amour du Docteur, en fait.
Ouais, mais bon, River, Rose, Amy, tout ça, il y avait un potentiel. Enfin bon.
Comment vous décririez Docteur Who en un seul mot?
Oh, un seul mot. Fabuleux.
Univers.
Univers, c'est vaste comme mot, mais c'est adapté.
Ça fait le taf.
Et alors, la question que tout le monde doit vous poser, qu'on a posé 50 milliards de fois, mais pour vous, par quel épisode on doit commencer Doctor Who? Lequel est vraiment représentatif de Doctor Who?
Il faut commencer par An Unearthly Child de 1963. Non, généralement, je commence quand même de commencer par... Et ça dépend, c'est difficile en fait de conseiller un épisode, ça dépend. Si jamais vous avez vraiment envie de regarder la nouvelle série de Doctor Who, parce qu'il y a deux saisons de Doctor Who, il y a deux périodes de Doctor Who, une classique et une nouvelle, je vous conseille de commencer par la nouvelle, du coup avec l'épisode Rose. Alors par contre, si vous avez juste envie de voir si ça peut potentiellement vous plaire, vous pouvez, j'aime pas trop commencer par Blink, parce que c'est un épisode très bizarre, mais en même temps c'est un des préférés de beaucoup de monde. Donc peut-être que ça peut vous plaire. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé quand même avec ça, même si c'est très différent du reste de la série. Et sinon, si vous avez peur que ce soit trop vieillot de démarrer par le premier épisode de la saison 1, je vous conseille le premier épisode de la saison 5, qui est The Eleventh Hour, ou alors le premier épisode de la saison 11, qui est The Woman Who Felt Worse. Sachant qu'il y a 13 saisons, comme ça vous fait que 3 saisons, c'est plus facile à rattraper, et après vous pouvez regarder avant si ça vous plaît. Bref, c'est assez difficile comme question, il y a beaucoup de points d'entrée dans Doctor Who et...
Moi, je conseille toujours de prendre un épisode très nul, genre Sleep No More. Comme ça, au maximum, on n'aime pas, mais c'est pas très grave. On sait que tout sera mieux à partir de là, en fait.
C'est assez réaliste. J'avoue que, pour ma part, j'aurais quand même pensé à la bibliothèque, Silence of the Library, qui est quand même qui est très intéressante et qui est un bon condensé de ce que fait Doctor Who avec River, avec le meilleur des docteurs, avec la meilleure des partenaires, hein, Donna, dans notre cœur. Mais voilà. Et toi alors, du coup?
Je suis pas trop d'avis, j'ai aimé toutes les saisons, sauf certaines qui m'ont un peu... C'était trop. Les amourettes, c'est pas mon truc. Moi, j'aimais juste le rôle du docteur. Je l'aimais le... Voilà, juste le fait qu'il se téléporte, qu'il s'éclate, qu'il va d'année en année, dans le futur, dans le passé. Juste, j'ai aimé ça. Mais ça s'arrête, il n'y a pas plus le docteur. C'est comme ça. Il n'y a pas d'amourette, il n'y a rien. Il fait sa vie tranquille, il s'éclate. Il règle les problèmes des autres aussi. Voilà.
Je pense que là, on va arrêter de vous occuper le temps parce qu'il n'y a quand même au stand. Et peut-être un dernier mot pour finir, je ne sais pas.
Abonnez-vous à Pepper Pot Team.
Univers.
Et voilà, donc j'espère que vous aurez profité de ces magnifiques moments passés aux côtés de créateurs, youtubeurs et personnalités présentes à Yggdrasil.
Bah, j'espère que ça vous plaira et que vous avez kiffé ce petit moment à regarder toutes nos vidéos et nos photos à propos de ce festival merveilleux et que personnellement je vous le conseille parce que c'est un monde incroyable à découvrir pour grands et petits.
On espère vous revoir à la prochaine édition d'Yggdrasil et ce sera tout pour ce deuxième épisode du Micro Ambulant.